Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, Piana. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. C'est peut-être le bout du tunnel. Le chef de l'État a livré à la presse régionale le calendrier du déconfinement. On va bien sûr vous détailler tout ça très longuement ce soir. Ça va être progressif d'ici à la mi, voire à la fin juin, pour nous permettre de retrouver, selon les mots d'Emmanuel Macron, notre art de vivre à la française, notre convivialité, notre culture et notre sport. Amandine Bégaud, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
C'est évidemment le titre principal de ce jeudi 29 avril, titre dont on parlera notamment avec le professeur Pialou. Ce sera à 18h15 et puis Claude Lelouch aussi sera là pour la réouverture des cinémas.
Un déconfinement qui va se faire en 4 étapes, ça va commencer dès lundi, mais pour aller boire un verre ou déjeuner en terrasse, il faudra attendre le 19 mai. Même chose pour les commerces, les cinémas et les théâtres. Le couvre-feu, lui, sera décalé à 21h, puis 23h. On vous détaille tout ça dans un instant. De nombreuses réactions également. Et puis cet après-midi, Emmanuel Macron a assisté aux obsèques de Stéphanie, cette fonctionnaire de police assassinée la semaine dernière. Un hommage national lui sera rendu demain à Rambouillet.
La météo, bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Bon, si vous n'avez pas trop aimé ce jeudi, vous n'aimerez pas trop ce vendredi. Hein, c'est kiff-kiff.
Exactement, avec un ciel chargé et instable au sud, variable et plus sec au nord, de bonnes pluies le matin entre le Languedoc et la Franche-Comté. Dans l'après-midi, ce sera surtout entre la Provence et les Alpes avec un coup de tonnerre possible. Des Pyrénées au nord-est, un temps qui sera bien couvert avec quelques averses. Et puis ailleurs, sur le nord et l'ouest du pays, un ciel variable et plus sec, sous des températures encore timides hein, pour la saison, de 12 à 16 au nord et de 14 à 19 au sud.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et on commence donc avec un restaurateur heureux. Ils sont nombreux ce soir, ça y est, après 6 mois de fermeture, ils savent enfin quand ils vont pouvoir ouvrir. Ce sera le 19 mai pour les terrasses, le 9 juin pour le reste. Chez Alain Fontaine, le téléphone sonne déjà.
On en voit la fin. Alors ça ne sera pas la libération de Paris hein, le 19 mai, mais ça sera un moment de liesse, un moment de, comment dire, de bonheur. De simple bonheur. Vous savez, le restaurant, c'est simple, hein, c'est du bonheur. Donc on va retrouver ce dont on est fait pour ça, pour offrir du bonheur aux gens. Mais là, ce jour-là, ça va être le bonheur pour nous et pour les clients. J'ai reçu déjà 2 réservations, là, en à peine 1 heure. Voyez-vous ? Dans l'après-midi, là, à l'instant. Le mot passe très vite et ces réservations, moi, je les avais pas eues avant sur les précédentes dates annoncées. Ça veut dire que les gens n'y croyaient pas ou y croyaient peu. Là, ils y croient vraiment.
Deux restaurateurs
bien,
en erreur,
ce sourire,
son petit sourire et fait du bien. Alain Fontaine, propriétaire du Mesturé à Paris, il préside aussi l'Association française des maîtres restaurateurs. Il était au micro RTL d'Alexandre de Saint-Aignan. Alors ce déconfinement, je vous le disais, va se faire en 4 étapes. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire.
Bonsoir.
Ça commence dès lundi, le 3 mai.
Oui, et dès lundi, c'est la fin de la règle des 10 km pour les déplacements, comme prévu. Collège et lycée reprennent aussi en demi-jauge. Le télétravail, lui, est maintenu. Deuxième étape, le 19 mai. Ce jour-là, notez-le bien, on pourra boire un café ou un apéro en terrasse. Les commerces rouvriront, les lieux de culture et les stades pourront accueillir jusqu'à 800 personnes assises et 1000 en extérieur. Ouverture aussi des piscines et des sports en lieu couvert. Le couvre-feu sera repoussé à 21h. Mais les rassemblements de plus de 10 personnes, toujours interdits.
Bah dis donc, c'est Noël en mai. Hein. Et alors pour dîner ou même pour déjeuner au restaurant, mais à l'intérieur, Marie-Bénédicte, il va falloir encore attendre là.
Ah oui, ça c'est à partir du 9 juin, avec 6 couverts maximum. C'est la 3e étape. Et là, le couvre-feu est repoussé à 23h. Le pass sanitaire permet aux salles de concert, aux stades, aux foires et salons d'accueillir jusqu'à 5000 personnes, ainsi que des touristes étrangers. Les salles de sport pourront ouvrir, mais pour les sports de contact, ce sera toujours en extérieur. Le télétravail sera assoupli. Enfin, le 30 juin, le couvre-feu est levé définitivement. Les jauges devraient aussi être supprimées dans tous les établissements recevant du public. Seules les discothèques resteront encore portes closes.
Et tout ça, bien sûr, c'est sous réserve que la situation sanitaire ne se dégrade pas.
Ça, c'est la phrase obligatoire. Hein.
Phrase obligatoire. On va y revenir d'ailleurs dans un instant. Merci Marie-Bénédicte Allaire. D'abord, direction les Champs-Élysées, si vous le voulez bien. Nerissa et Mani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur place pour RTL. On imagine que tous ceux que vous avez croisés commencent à retrouver le sourire.
Oui, comme Laura, elle s'imagine déjà le 19 mai, assise à une terrasse, un café sur la table.
Oui, ravie, parce que ça devient très lourd, c'est déprimant de rester enfermé chez soi, avec le beau temps qui revient, etc. L'envie, c'est d'aller se poser en terrasse, de retrouver les copains, prendre un verre, manger un morceau, pouvoir traîner dehors quand on en a envie.
Plus loin, devant un cinéma, Martine regarde les affiches, toujours celles d'octobre. Elle est pressée de retrouver le monde de la culture.
Du moment où tout le monde est raisonnable, il n'y a pas de raison que ça reste fermé. Hein.
Les cinémas, les expositions, les musées, enfin tout ce qui va être ouvert, quoi. Pour moi, c'est un manque important, quoi.
Pour d'autres, c'est le passage du couvre-feu de 19 à 21h qui donne le sourire.
Je suis super contente et ça me paraît assez raisonnable. Ça permet aux gens de ne pas faire que travailler. Il va y avoir un moment d'espace de vie à soi. Il me semble que c'est bien là.
Alors le 19 mai, Audrey, 20 ans, a déjà tout prévu.
Je pense que j'irai au resto déjà.
Entrée, plat, dessert, vous prenez
à tout, tout, apéro, tout.
Il faudra donc patienter encore 3 semaines avant de pouvoir enfin commander l'apéro.
Ça aussi, ça fait du bien d'entendre tout ça. Merci à vous.
Je crois qu'on va se rediffuser votre journal ce soir. Pour une fois, ça fait du bien. Ça n'a peut-être pas duré, mais ça fait du bien.
En direct des Champs-Élysées pour RTL. Autre réaction ce soir, c'est celle du directeur général du Stade Brestois. Les matchs en public, on le disait, vont pouvoir reprendre dès le 19 mai. Avec une jauge à 1000 personnes. Parfait pour les Bretons qui reçoivent le PSG pour la toute dernière journée de championnat. Ce sera le 23 mai.
C'est une bonne nouvelle, mais notre difficulté, ça va être de définir la catégorie de public. C'est vrai que les 1000 seront des grands privilégiés. Ça va être difficile de choisir les 1000 élus quoi, qui vont venir au match, parce qu'on aimerait remercier tout le monde et que tous nos abonnés, tous nos supporters, tous nos partenaires qui nous soutiennent et qui nous ont beaucoup aidés dans la période difficile avec la situation sanitaire, notamment au niveau des abonnés. Je vois, on a pas mal d'abonnés qui nous ont laissé leur abonnement, qui n'ont pas demandé le remboursement et tout. Tout ça, c'est des gens qui mériteraient être là pour le match, quoi.
Voilà, ça c'est pour le côté pas tout à fait content.
Mais c'est déjà bien, c'est déjà
bien.
Ben
oui, Pascal Robert, le directeur général du Stade Brestois, il était avec Philippe Audouin pour RTL.
Alors là, c'est mon instant rabat-joie. Attention donc, on le disait, tout ça, c'est bien sûr, et c'est vraiment important, hein, sous réserve que la situation sanitaire ne se dégrade pas.
Certaines étapes, prévient le chef de l'État, pourraient être retardées là où le taux d'incidence est supérieur à 400 cas pour 100 000 habitants. Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir.
Y a-t-il encore beaucoup de départements qui sont ce soir dans ce cas-là, à l'heure où on parle?
Alors, il y en a 8, les Bouches-du-Rhône, l'Oise et les 6 autres sont tous en Île-de-France. Seine-et-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Paris. Alors dans ces départements, comme dans la majorité du pays, le nombre de cas baisse, mais lentement. Au rythme actuel, le 19 mai prochain, le taux devrait être inférieur à 400, mais rien ne dit que l'épidémie ne va pas repartir avec l'ouverture des écoles. Il y a aussi des départements où l'épidémie continue de progresser, notamment la Haute-Marne qui pourrait rejoindre la liste. Donc, dans ces départements où le nombre de cas augmenterait brutalement et menacerait de saturer les hôpitaux, les réouvertures seraient repoussées. Alors, le taux d'incidence retenu par Emmanuel Macron de 400 est très élevé. L'Allemagne avait elle aussi choisi de rouvrir, d'alléger les mesures. Eh bien, certaines régions y renoncent. Elles repoussent le déconfinement parce que leur taux est repassé au-dessus de non pas 400, mais 100. Quant à l'Italie et l'Espagne, elles déconfinent aussi, mais leur taux est inférieur à 150.
On est d'accord que notre seuil d'alerte il y a quelques temps encore, c'était 250 pour 100 000 habitants, c'est
exactement.
Ça
exactement. Et là, 400, c'est très élevé.
On élargit.
Merci Virginie. Virginie Garin pour ces explications concernant la vaccination cette fois. Les personnes obèses vont pouvoir commencer à se faire vacciner dès samedi, le 1er mai. En Martinique, la vaccination va être ouverte à tous les adultes, hein, dès 18 ans. Et puis, plus de limite d'âge non plus au Stade de France. Mais là, attention, la mesure ne concerne que les professions prioritaires et quand il reste encore des doses. Écoutez Stéphane Troussel, le président du conseil du département de Seine-Saint-Denis.
Je suis satisfait que ces professionnels puissent bénéficier de ces doses supplémentaires pour ne pas les perdre. Dans un département très jeune comme le nôtre, dans un département populaire où il y a beaucoup d'habitants qui exercent des métiers qui ne sont pas télétravaillables, si on veut progresser plus significativement en matière de vaccination, il faut pouvoir élargir. Encore une fois, ces doses, ce sont des doses supplémentaires. Et c'est parce qu'il y a des doses supplémentaires que, au quotidien, les équipes, avec l'autorisation de l'ARS et de la préfecture, gèrent ces doses supplémentaires et permettent d'élargir à chaque fois les cibles de vaccination.
Stéphane Troussel, le président de la Seine-Saint-Denis, joint pour RTL par Mathieu Limongi. Je vous rappelle deux invités dans quelques minutes dans RTL Soir, le professeur Pialou pour l'aspect médical et puis Claude Lelouch, le réalisateur, pour l'aspect culturel et réouverture des cinémas.
Dans l'actualité également ce soir, les obsèques de Stéphanie Monfermé, cette fonctionnaire de police assassinée la semaine dernière à Rambouillet. Cérémonie dans l'intimité, mais en présence d'Emmanuel Macron avant un hommage national. Demain, Valentin Boisset était sur place pour RTL.
Oui, la cérémonie s'est tenue à l'abri des regards. Il fallait faire partie de la famille pour rentrer dans la petite église de la commune. Emmanuel Macron, lui, est arrivé avec son épouse aux alentours de 16h30 pour le début de la messe, avant que les cloches ne sonnent. Une couronne de fleurs de la présidence de la République a été déposée ce matin devant l'entrée de l'église. Tout autour, le dispositif de sécurité est lourd. Un périmètre de 500 mètres est infranchissable, mis à part pour les riverains. Ambiance particulière donc pour Jean-Philippe, un habitant de la commune. Il est resté une heure devant le cordon de sécurité. Il souhaitait être présent cet après-midi.
C'est bizarre, surtout l'ambiance, le monde, on ne connaît pas ça ici. C'est une femme du village que j'ai côtoyée quelques fois, c'était une femme très gentille. Et puis, rendant service, c'est dommage pour elle. Je ne pensais pas que ça allait arriver dans des communes comme Rambouillet, chez nous.
Aucun officiel n'était donc convié, à part le président de la République. Demain, un hommage national sera rendu à Stéphanie, présidé cette fois-ci par Jean Castex, à Rambouillet, à quelques kilomètres d'ici.
Valentin Boisset à Saint-Léger, en Yvelines, pour RTL. Dans les Ardennes, la fin des fouilles dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin. Pendant 4 jours, depuis lundi, les gendarmes ont minutieusement ratissé un large périmètre sur les indications de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret. Vaste opération qui, hélas, n'a rien donné. 18 ans après les faits, hein, tous le reconnaissent, que ce soit les enquêteurs et les avocats, ce type de recherche dépend aussi largement du facteur chance.
Il est 18h11 et on va passer à la bonne nouvelle.
RTL Soir.
Vous auriez pu commencer le journal par ce jingle d'ailleurs ce soir.
J'ai failli, mais il y avait cette histoire qui méritait d'être signalée. L'honnêteté, Thomas, existe encore.
Ah bon,
la
ça
preuve avec Mohamed qui recherche ce soir, écoutez bien, les 2 saisonniers qu'il a pris en stop en début de semaine. Ils ont oublié dans le coffre de sa voiture un violon. La suite, c'est Yann Boucherie qui nous la raconte.
Oui, c'est en sortant ses sacs de course que cet employé d'un camping de Lozère découvre l'instrument. Problème, il ne connaît pas l'identité des 2 voyageurs, un garçon et une fille d'une 20aine d'années. Il lance alors un appel sur Facebook. Ce violon possède en effet une grande valeur sentimentale.
Il est à la demoiselle. C'est elle qui m'a dit oui, c'est mon père qui me l'a offert pour ma 2e saison, pour que je puisse bien travailler, parce que son violon, il porte bonheur. Il est dans sa coque, très bien protégé, avec l'arceau et tout. Oh non, non, on ne touche pas, c'est pas à moi. Je l'ai juste ouvert, j'ai fouillé dans les poches s'il y avait un document, une adresse, un truc comme ça, quoi. Mais rien, je l'ai bien refermé. Il est au-dessus de l'armoire, il attend patiemment.
Et pour la restitution de l'objet, rendez-vous au camping municipal sur la commune de La Malène, en Lozère. Les escrocs potentiels, eux, n'ont aucune chance. Mohamed remettra le violon à la demoiselle inconnue, uniquement en main propre.
Béguin, Mohamed, non ?
Ah,
non,
c'est pas hein, tout de suite.
Ça serait une super bise, bon. Ça deviendrait un film.
Mais oui, mais enfin, je vous rappelle qu'elle avait déjà, a priori, un compagnon dans les
films. Ah oui, c'est vrai.
Ils étaient
ah, oui, c'est vrai. C'est vrai.
Juste honnête, quoi. Exactement, c'est ça.
Bon, et... amis de La Malène et de la région, mobilisez-vous, là. En Lozère, il faut... Qui a perdu son violon ?
Exactement, et ça nous fera une autre bonne nouvelle quand on l'aura retrouvé, c'est pas mal, ça.
Ça serait bien, lundi, par exemple, ouais. Jusqu'à lundi ou mardi
Allez.
Prochain.
Oui, on y croit.
On se fait quelques notes de musique. Allez, sur ces quelques notes musicales, on va s'intéresser à cette vie qui va donc reprendre progressivement. Vous en parliez, Amandine. Mais est-ce bien raisonnable ? On en parle avec un médecin, le professeur Pialou, en direct dans un instant, et également avec le réalisateur de cinéma, Claude Lelouch. À tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Les salles de théâtre, les musées, les cinémas vont rouvrir, certes avec jauge, mais vont rouvrir à partir du 19 mai. Et c'est une bonne nouvelle, c'est un soulagement pour le monde de la culture. Et on est en ligne et en direct avec le réalisateur Claude Lelouch. Bonsoir et bienvenue à vous, Claude Lelouch.
Bonsoir.
Est-ce que vous êtes ce soir un homme heureux ?
Évidemment. Évidemment, parce que les émotions, on ne peut les voir que sur de grands écrans. Moi, j'ai grandi dans les salles de cinéma. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à voir les films sur les petits écrans, donc c'est une grande fête, et c'est vrai que le cinéma a besoin de grands écrans, et non, c'est une très très bonne nouvelle. C'est comme la libération, voilà.
Comme la libération, carrément.
Ben oui, parce que, vous savez, on est en manque, là. Moi, c'est la première fois de ma vie que je ne vais pas au cinéma pendant une période aussi longue, et heureusement que j'ai une salle de projection privée, et j'ai pu quand même voir quelques films et surtout travailler sur mon dernier film, mais je connais le public, je sais à quel point ressentir les émotions avec des gens qui sont autour de vous et qui rient avec vous, qui pleurent avec vous, ça n'a pas de prix. Vous pouvez avoir le plus bel écran du monde chez vous, vous n'avez pas le public.
Le public, il ne va pas savoir où donner de la tête parce qu'il va y avoir un embouteillage de nouveaux films avec cette réouverture. Comment ça va se passer à votre avis, ça ? Comment il faut faire pour qu'il n'y ait pas de perte, de perdition ?
Ben, d'abord, il faudrait que les films qui ont été interrompus puissent reprendre, puisque il y a des films qui ont eu droit qu'à une semaine, voilà, et puis... j'ai peur, effectivement, qu'il y ait un embouteillage monstre. Donc, j'espère qu'on va tous faire preuve d'élégance et attendre notre tour. Voilà, c'est un petit peu comme... vous savez, quand il y a la queue c'est toujours désagréable quand il y a des resquilleurs. Voilà, ouais. J'espère qu'il n'y aura pas de resquilleurs.
Bon,
voilà.
vous travaillez sur, vous le disiez, votre prochain film, L'amour, c'est mieux que la vie. C'est une sortie qui est prévue pour quand? Vous en êtes où de ce tournage, vous?
Mais écoutez, le film, là, je suis en train de le finir. Je suis en train de finir le film. J'ai fini la première partie. La deuxième partie, je la tourne au mois de septembre. Donc, si tout va bien, j'aimerais que cette première partie sorte à la fin de l'année.
Oui. Voilà. Et évidemment, ça va être des séances, en tout cas les premières séances, avec des mesures sanitaires, avec les masques, avec de l'espace entre chaque spectateur. Ça vous pose un problème, ça, ou vous dites maintenant, faut pas raffiner, faut y aller, faut être content, faut profiter?
Non, il faut y aller, même si on doit être séparés les uns des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est très très important qu'on retourne dans les salles, que la machine se remette en route, que les habitudes repartent, qu'on ait temps de faire la promotion des films, d'en parler, voilà, parce que la vie sur grand écran, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Les émotions, quand elles sont sur grand écran, elles nous touchent différemment, voilà. Donc, non, c'est une très, très bonne nouvelle. Et comme je suis quelqu'un de positif, même si c'est compliqué, à l'arrivée, ça sera simple.
Et voilà. Bon, on l'espère et on sera nombreux dans la salle de cinéma. Une toute petite dernière question. En début de semaine, Bernard Tapie, votre ami Bernard Tapie, était l'invité du 20h de TF1. Et il a dit qu'il voulait encore tourner un film avec vous, que vous aviez ce projet ensemble. C'est vrai? Ça sera quand, ça?
Mais écoutez, c'est vrai. Je pense qu'il va subir encore une opération pour récupérer sa voix. Et dès que la voix est récupérée, on est prêt, je l'attends. Voilà.
Ouais. Il avait déjà joué dans Homme-Femme Mode d'Emploi avec vous, hein?
Oui, bien sûr. Il était sublime, formidable. Et j'ai très, très envie qu'il soit présent dans le film que je prépare actuellement et dans la deuxième partie de ce film où il aura un rôle important.
Quel rôle vous avez envie de lui donner?
Ah, écoutez, vous irez dans les grandes salles, sur de grands écrans, voir tout ça, et j'espère qu'à ce moment-là, on pourra aller voir ça dans des salles bondées.
Mais voilà. c'est dans L'amour, c'est mieux que la vie, ou c'est dans le film d'après, en fait?
Oui, non, là, mon film est en deux parties.
La première partie est
terminée, elle sortira donc à la fin de l'année, et la deuxième partie sortira l'année prochaine.
Et voilà. Ben, on lui souhaite de pouvoir faire ce film avec vous, on vous souhaite de pouvoir faire ce film, et on se souhaite à nous de pouvoir aller voir tous les films du monde au cinéma. On était très heureux de vous avoir en direct ce soir dans RTL Soir.
Merci. Et viva le cinéma.
C'est bien noté. Merci Claude Lelouch, et on partage votre enthousiasme. Alors avec nous également, le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon à Paris. Bonsoir professeur Pialoux.
Bonsoir Thomas Soto, c'est compliqué de passer après l'enthousiasme de Claude Lelouch.
Mais c'est bien pour ça que j'ai voulu avoir votre avis, parce qu'on a aussi besoin de l'avis médical. On l'entendait tout à l'heure dans le journal de 18h, tout est valable sous réserve de la situation sanitaire. Est-il bien raisonnable d'être tellement heureux ce soir?
Non, mais je crois qu'on peut pas empêcher les gens d'être heureux, encore moins Claude Lelouch. Mais bon, est-ce que c'est la libération? Je pense que c'est l'après-libération qui nous dira si c'est une date clé, ce 19 mai. Voilà, ce que nous on voit sur le terrain, c'est que c'est une prise de décision qui est de plus en plus écartée de la logique scientifique, ce que l'on comprend, et c'est d'ailleurs assumé par le président, qui dit que cette stratégie de vivre avec le virus, il l'assume, y compris à un haut niveau d'incidence, qui est quand même la moindre des formules pour des départements qui sont à plus de 400 pour 100 000 habitants.
C'est un risque qui vous paraît démesuré aujourd'hui, ça? C'est une imprudence pour vous?
Mais l'imprudence, je dirais pas le terme, c'est un risque qui est assumé. On vit finalement, j'en ai déjà discuté avec des restaurateurs, la logique complètement inverse des théâtres et des restaurateurs. C'est-à-dire que eux sont dans une logique, on veut bien réouvrir, mais si c'est pour refermer trois semaines après. Et nous, sur le terrain, on est dans une logique inverse, c'est-à-dire qu'on a réouvert des salles, réouvert des lits de réanimation, et on voudrait pouvoir les refermer, quoi. On est dans des logiques opposées. Et puis bon, ce qui m'ennuie, mais je comprends les propos du président qui est dans sa fonction, c'est que c'était très difficile de commenter un plan qui est un plan politique et social, mais qu'il n'y a pas de plan en face, si vous voulez, il n'y a pas de plan sanitaire. Vous savez, le seul élément chiffré, ce sont les jauges, et le seul élément chiffré, c'est ce qu'ils appellent les mesures de freinage.
Les freins d'urgence, oui.
Voilà, les freins d'urgence. Au-dessus de 400 pour 100 000, la menace non chiffrée sur la réanimation. La réalité de terrain, elle est que ces décisions, elles sont annoncées. En plus, il y a une dimension qui est très clairement apparue non seulement dans les courbes, mais dans la réalité, c'est que les Français, à partir du moment où ils entendent ça, ils anticipent.
Oui. C'est bien qu'on respecte moins les mesures barrières, on est moins prudent.
On l'a vu pour la première vague, c'est mathématique. On l'a vu pour la deuxième vague, on le sait avec des études qui sont faites sur les smartphones ou sur Google, enfin de la géolocalisation. Donc de toute façon, il y aura une anticipation et on la voit déjà dans la rue, l'anticipation. Donc je dirais que 19 mai, c'est aujourd'hui, et ça, c'est vrai quelque chose qui nous inquiète.
C'est aujourd'hui, même et si c'est les terrasses trop tôt, sont fermées. C'est ce qu'on comprend, c'est aujourd'hui, c'est trop tôt, le 19 mai, le vaccin aujourd'hui n'est pas un pare-feu suffisant.
Mais c'est trop tôt par rapport à une logique scientifique qui se trompe, à mon avis, et nous, on a écrit pas mal de textes là-dessus, parce que si on mise uniquement sur la ressource vaccinale, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas, compte tenu du niveau de circulation virale où on est, compte tenu du niveau où ces décisions arrivent de remplissage des réanimations et de l'hospitalisation, et surtout compte tenu de la problématique des variants. Il y a une incohérence à dire on va laisser le virus circuler puisque finalement on fait un freinage qu'à plus de 400 pour 100 000 et avoir peur que la politique vaccinale soit gênée par les variants, puisque plus il y a de virus, plus le virus fait des erreurs de réplication et mute, et plus il a des probabilités d'échapper à un programme vaccinal, oui. Même si les industriels peuvent s'adapter assez rapidement en 2-3 mois, ce qui était annoncé, qui est une bonne nouvelle.
Professeur Pierre Louis, est-ce qu'on est, comme s'en inquiète Le Monde, qui se base sur des modélisations de l'Institut Pasteur, sous la menace d'une quatrième vague pour l'été, et dont la hauteur pourrait d'ailleurs dépasser la troisième ?
Mais bien sûr, mais ça je pense que c'est quelque chose qui est assumé politiquement, c'est-à-dire que les hôpitaux ont tenu, on n'a pas eu les images de l'Inde, on n'a pas eu les images de Manaus, on n'a pas eu les images de la Lombardie à la première vague, donc
je pense que ça rassure. Mais on est à l'abri de les avoir dans les semaines qui viennent ou est-ce qu'on est à l'abri de rien ?
Mais moi je pense qu'on n'est pas à l'abri parce qu'on ne maîtrise pas la circulation du virus et qu'on est sur un plan sanitaire qui est caduque, c'est-à-dire de dire on prend ses décisions et on aura le vaccin qui arrivera et on sait très bien qu'il y aura un angle mort qui est à la fois en termes de population. Par exemple, on sait très bien que les gens qui vont être les plus exposés aux terrasses de café, dans les spectacles, etc., sont par définition, et dans le plus de partage social, sont par définition les gens qui sont dans le segment aveugle actuellement du programme de vaccination. Donc je pense aux tranches 30-50. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, on sait très bien que ces variants, ils peuvent surgir à n'importe quel moment, compte tenu du niveau de circulation du virus qui est assumé par le politique et qui est très très élevé. Et on l'a vu pour le Brésil et on l'a vu pour l'Inde, c'est-à-dire que c'est parce que et pour l'Angleterre du Sud. À partir du moment où vous avez une circulation virale comme ça, et ben vous avez la possibilité qu'un variant arrive d'échappement et c'est ce qui s'est passé pour l'instant chaque fois.
Le professeur Pierre Louis, quand les journalistes de la presse quotidienne régionale qui l'ont interrogé ont fait remarquer au chef de l'État qu'il voulait à l'époque déconfiner à 5000 cas par jour pour le mois de décembre et qu'on en est aujourd'hui à plus de 30 000, Emmanuel Macron répond: la vie de la nation ne se réduit pas à l'évolution des courbes.
C'est vrai. Mais l'unité de la nation, enfin moi je vous donne ma position de citoyen soignant, l'unité de la nation, elle inclut aussi les soignants et elle inclut aussi les soignés. Donc je pense que on est dans des décisions où il y a des choses qui pèsent plus que le remplissage de l'hôpital. Et c'est vrai que je vous le dis un peu avec émotion, ça répond en négatif, si je puis dire, à l'émotion de Claude Lelouch, que je comprends aussi et que je partage, on a l'impression d'avoir perdu une bataille d'écoute, quoi, de stratégie de terrain par rapport à l'hôpital. Mais peut-être qu'effectivement, ça va se stabiliser, mais je ne vois pas par quel miracle. Vous l'avez raison de rappeler que quand on était quand il y a eu l'annonce en octobre, on était avec des seuils d'alerte à 50 pour 100 000 pour le début de l'alerte, et l'alerte maximale c'était à 250 pour 100 000. Et aujourd'hui, alors qu'on a plus de virus, plus de variants, et qu'on a une hypothèse vaccinale qui s'est repoussée, on met un seuil à 400 pour 100 000. Je pense que vous allez avoir du mal à interviewer des gens du conseil scientifique pour vous expliquer ça scientifiquement.
C'est vrai que je vous sens, on s'est déjà rencontré à plusieurs reprises, je vous sens inquiet et ému ce soir.
Oui, mais enfin bon, là, oui, parce que voilà, c'est pas ça notre réalité. Voilà, quand vous m'avez envoyé un SMS, on était en train de transférer moi aussi, on peut aussi donner des exemples. Quelqu'un de 65 ans qui était venu pour se faire vacciner, figurez-vous, il était venu en se faire vacciner. Il était assez en forme et en fait, en lui faisant les examens, on s'est aperçu qu'il avait tout simplement le Covid. Donc c'était un hasard de l'histoire. Et là, on le passait en unité de soins intensifs. Il a pas de facteur de risque. Il n'était pas prioritaire pour la vaccination. C'est ça la réalité, quoi. Et notre animation, elle a 20 lits et on a ce soir 26 malades intubés. Donc on n'est pas du tout. Voilà, on n'est pas dans une perspective de terrasse, mais je comprends aussi, voilà, chacun son métier, mais il faut pas non plus gommer le ressenti des soignants qui sont fatigués, épuisés, et nous, sincèrement, c'est pas des courbes qu'on voit. C'est des listes de malades, c'est des familles, c'est des annonces, c'est des transferts, et ça, c'est pas des courbes.
Merci beaucoup, professeur Gilles Pialoux. Je rappelle que vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon à Paris. Je voudrais répéter, parce que il y a bien longtemps qu'on n'applaudit plus les soignants à 20h. Eh ben, je vais profiter de votre présence et adresser pour remercier encore une fois tous ces soignants, parce que pour eux, le quotidien est le même depuis plus d'un an maintenant. On sait que c'est très compliqué, on en a conscience, donc remerciez-les pour nous, si c'est possible.
Merci, vous l'avez fait par les ondes, c'est encore plus efficace.
Merci beaucoup, professeur Pialoux. Merci à vous.
Au revoir.
Dans un instant, c'est l'œil de Philippe Cavrivière. Comment
oui,
ça va,
bonsoir,
Philippe?
Bah,
je cherche ma feuille. Ah tiens, vous êtes là, ça y est.
Si, je suis là.
Une chronique pleine d'espoir avec vous, car le déconfinement approche. On va essayer, parce que là, le professeur Pialoux nous a un peu calmé.
Hein.
En même temps, il a des arguments. Hein. Ça dit, on a des infos précises sur le calendrier de réouverture.
Oui, on parle de l'ouverture des terrasses et des magasins le 19 mai. Et oui, en 2021, on est juste heureux de pouvoir sortir pour acheter des bières et des slips. On a quand même bien baissé nos exigences sur l'échelle du bonheur.
Oui.
Hein, on se contente de plus grand chose.
Oui, je voulais vous en parler pour les slips.
Une bière, un slip, et c'est bon.
Et une brosse à dents aussi. Hein.
Je vais faire.
Parce qu'un jour, vous enlèverez le masque,
bah
un
oui,
jour, hein, et on va tous le payer.
Tout le monde dans ce
Allez.
Studio.
On se retrouve juste après le rappel des titres avec Amandine Bégaud pour l'œil de Philippe Cavrivière. A tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h29.
RTL Soir avec Thomas Soto.
Et avec Amandine Bégaud pour le rappel des titres.
Et ça y est, on a ce soir le détail du déconfinement. Ça va se passer en 4 étapes. La première dès lundi, fin de la règle des 10 km. Deuxième étape le 19 mai, réouverture des terrasses, mais aussi des lieux de culture, des stades et des piscines. Comme à la Libération, dit ce soir sur RTL Claude Lelouch. Toujours le 19 mai, le couvre-feu sera repoussé à 21h à 23h le 9 juin. Ce jour-là, les restaurants pourront rouvrir aussi à l'intérieur. La dernière étape, ce sera le 30 juin avec la fin du couvre-feu. Alors tout ça, bien sûr, prévient Emmanuel Macron, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire. Certaines étapes pourraient être retardées, là où le taux d'incidence est supérieur à 400 cas pour 100 000 habitants. Sur RTL, il y a quelques minutes, le professeur Pialoux se disait inquiet devant ce calendrier. La situation dans les hôpitaux, dit-il, est loin, très loin de s'être améliorée.
La météo, Peggy, demain, il y aura encore de la pluie, notamment dans le sud du pays.
Oui, et le sud-est, exactement. Avec des pluies conséquentes entre le Languedoc et la Franche-Comté.
C'est
chez
Cavrivière, c'est le sud-est, hein, je crois.
Ouais. C'est chez vous ?
C'est chez moi.
Et un ciel chargé, des averses plus éparses entre les Pyrénées et le nord-est. Et puis c'est variable sur le nord-ouest. Dans l'après-midi, ce fameux corps pluvieux, il va se décaler entre la Provence et les Alpes avec un coup de tonnerre possible. Et puis un ciel plus lumineux et plus sec sur la côte atlantique et au nord de la Loire. Tout ça sous des températures qui resteront sous les normales, de 12 à Cherbourg à 19 à Perpignan, 16 à Paris, Strasbourg et Bordeaux.
Merci à vous, Peggy. Philippe.
Oui.
On commence avec cette tribune des militaires dans Valeurs Actuelles, ça ne vous a pas échappé.
Oh non.
Et ils y évoquent le délitement de la France.
Mais où est donc passée la 7e compagnie ? Ben on a enfin la réponse chez Valeurs Actuelles. Alors le ministère des Armées a enquêté et est désormais en mesure d'établir la liste des militaires signataires. Ce n'est pas un exploit non plus, vu que les mecs avaient signé avec leur nom et leur prénom. Le Rassemblement national a dit aux militaires « Rejoignez-nous !» Alors, ça leur a pas fait une longue marche, vu qu'ils y étaient déjà au RN, les gars. « Tous avec nous !» Oui, bon, bah, arrête de gueuler, j'y suis déjà au RN.
Je pensais que vous nous feriez un petit peu Jean-Marie Le Pen.
Tout
là,
à l'heure. Ouais.
En tout cas, les militaires en question vont passer devant un conseil militaire et ils risquent des sanctions. Hein.
Il faut que ces sanctions soient exemplaires. Je te foutrais tout ça à l'armée, moi. Bon, après, s'ils sont virés, c'est pas grave non plus. Ils pourront toujours retrouver du boulot dans l'émission. Le nom m'échappe, l'émission, c'était hein mieux avant. Le gouvernement, c'est des nuls. Hein, le mec sympa avec la cravate rose. Il y a Laurent Geoffrin qui sert de punching ball.
Ah,
l'heure des pros,
ah,
voilà.
Oui.
Avec
oui.
Pascal.
Oui, mais c'est bon.
Voilà, il pourra les recueillir.
Comment vous l'appelez, l'émission, c'était mieux avant. C'est une semaine chargée pour le gouvernement. En tout cas, Jean Castex a présenté un nouveau texte de loi antiterroriste, un projet de loi pour mieux protéger les Français. Alors, vous êtes aussi expert en affaires terroristes. Expliquez-nous comment ça va marcher, Philippe.
Déjà, précision, c'est la 14e loi antiterroriste en 9 ans. Autant les 13 premières, elles n'étaient pas terribles, mais là... Là, on est chafouin, là. Là, on est remonté contre le terrorisme. Alors, comment ça marche? Très simple. Hein. En cas d'agression coutelière, il faudra juste avoir le texte sur soi. Oh là là, une agression coutelière, une petite seconde, monsieur le terroriste. Pardonnez-moi, j'ai ici le nouveau texte de... Non, ça c'est mon attestation, pardon, de sortie. J'espère que vous avez la vôtre, Coquinou. Alors, le nouveau texte de loi, oui, il est là, de Jean Castex, voilà, et Darmanin. Alors, c'est écrit ici, vous ne pouvez plus m'agresser, monsieur. Voilà, 14e loi antiterrorisme, à la 14e, c'est la bonne, enfin. Bon, enfin, sur le papier, c'est super. Le gars devrait repartir en s'excusant. Mais dans le doute, quand même, barrez-vous quand même avant,
oui,
en courant.
C'est plus prudent, effectivement. Voilà. Hier, Jean Castex a annoncé qu'Emmanuel Macron allait s'exprimer vendredi, il l'avait dit, hein, dans la presse quotidienne régionale. Ouais. Mais l'agenda, en fait, a été révélé cet après-midi.
Ah oui. Pour une fois que la PQR avait un scoop, ils se sont fait griller la politesse par les parigots de BFM et CNews. Alors la presse régionale, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est le trésor de TF1, mais en version papier. C'est une presse de qualité. Bah, quand vous déménagez, vous êtes bien content de l'avoir pour emballer vos verres. Parce
Je plaisante, c'est super.
La PQR. Ouais. J'embrasse Varmatin. Et d'ailleurs, ouais, je vous ai pioché deux titres au hasard, authentiques. Hein. Ouest France, à Saint-Malo, il appelle la police après s'être fait voler son drapeau nazi. C'était pas vrai titre, le monsieur. Le Dauphiné libéré, tout est vrai. Ils demandent une scie à leurs voisins pour faire disparaître un corps. Oui. Comme quoi, on sait encore s'amuser en province. Bon. On sait rire en région.
Parlons de l'info qui tourne en boucle. C'est une mine d'informations, la PQR. Nous, on regarde tous les jours. Parlons de l'info qui tourne en boucle depuis 3 heures. La réouverture des terrasses, ce sera le 19 mai. Ce sera donc une réouverture progressive.
Alors, c'est pas bien ce que c'est, une réouverture progressive. Peut-être on aura des menus progressifs. Le 19 mai, on pourra prendre que l'entrée, qu'une macédoine ou un œuf mayo, et après, hop, ça dégage. Et la réouverture complète des restos, c'est le 9 juin. Donc, œuf mayo le 19, et steak à cheval, île flottante, le 9 juin.
On est obligé de prendre l'œuf mayo, vraiment.
Dîner de guerre. Non, comme vous voulez, c'est sûr, il y a la macédoine aussi. Ouais. Oh. Voilà, et île flottante le 9 juin. Je ne sais plus si c'est Baudelaire ou Maïté qui disait le bonheur, c'est simple comme une île flottante. Baudelaire, je crois que c'est Maïté.
En tout cas, île flottante ou pas, le retour à la vie normale passe par la vaccination. On le disait, le souci, c'est que les Français ne se précipitent pas. Il y a 230 000 créneaux disponibles.
Vous avez vu ça? Avant, on n'avait pas les vaccins. Maintenant, on n'a pas les gens. On n'en met pas une dedans. Hein. Puis vous avez vu la nouvelle des épidémiologistes, les médecins qui disent le masque en plein air ne sert à rien, oui, peut-être. Bon, faut pas le dire tout de suite aux Français, j'ai peur qu'ils se braquent. Thomas me le disait hors antenne, susceptibles comme ils sont, c'est contre Français
oui,
en plus.
Bah bien sûr. Écoutez, enregistrez la prochaine fois. Hein, voilà. Autre info qui vous a interpellé, c'est Philippe Ballard, le présentateur de la chaîne Info LCI, qui a donc quitté LCI pour rejoindre le Rassemblement National.
Welcome, mon filou. Welcome, bienvenue. Ouais,
voilà, Le Pen. Voilà Jean-Marie Le Pen. Alors,
je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des journalistes de France Inter qui ont voulu faire pareil. Ils ont démissionné et ils sont partis, ils sont allés sonner au Parti Socialiste. Ah. Bon, il n'y avait personne, du coup ils sont rentrés à France Inter. Mais revenons à Philippe Ballard, passé de LCI au RN. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait des indices qui laissaient pressentir une petite tendance droitière? On écoute un de ces anciens JT. International politique. Jean Castex décide enfin de fermer les frontières, une mesure prise avec un an de retard, car dès mars 2020, la visionnaire Marine Le Pen réclamait cette mesure. Si Marine Le Pen avait été présidente, nous aurions donc évité 100 000 morts. CQRN. People. Obsèque du prince Philippe a noté l'absence de Meghan Markle, l'africano-américaine, n'a même pas daigné se rendre à l'enterrement. Une absence sûrement due à ce problème récurrent de paresse dans cette communauté. Ah si, à la réécoute, il y avait un petit peu. Il y avait des notes racistes.
Il y avait des indices. Hein.
Oui, il y avait une fin, ça sentait un peu.
Bon, on finit avec Éric Zemmour qui lui a été accusé d'avoir tenté d'embrasser de force une élue du PS qui s'appelle Gaëlle Lenfant.
Je peux vous dire que les collègues de CNews étaient choqués. Hein. Essayer de galocher une gauchiste, c'est dégueulasse. Hein. Et c'est une spécialité française, le French kiss, mais forcé. Bon, on a plein de champions, Cocorico, il y a Pierre Ménès, ouais, Jean-Vincent Placé, Éric, ouais, Zemmour. Bah, il revisite un classique de la chanson française. Ah oui.
Ah ouais.
Il n'y a pas que Goldman, il y a des beaux textes aussi du côté de Carlos.
Ah ouais.
Et à propos de Big Bisou, aucune date, j'en parlais avec Olivier Mazerolle, aucune date de réouverture des clubs échangistes. Et Mazerolle me disait, quand c'est qu'on ken Ah, trop tard, le bip. Ah, le bip trop tard, Grégory.
Big Bisou quand même.
Ben oui, je sais, mais on n'écoute pas assez Carlos, je trouve.
Ou peut-être pas.
Vous l'aurez en tête.
Demain, ce sera Valérie.
Trier-Vélin.
Non, c'était un piège. Ah, c'est bon, vous suivez rien qu'à vrai dire. Je ne suis pas content.
On me lance. Vous croyez que je réfléchis?
Bon, on se revoit samedi chez Ruquier sur France 2.
Non, c'est 1er mai.
Non plus. Ah, bah, il ne passe pas le 1er mai en plus.
Ils ont réussi à faire un best-of avec mes chroniques.
Bah, dis donc, le worst-of de Philippe Cabon. Nous, on se retrouvera mardi prochain ici. Vous êtes d'accord? Ça, c'est possible.
Je serai là.
Ok, venez, vous serez toujours le bienvenu, c'est sûr. Allez, il s'appelle Patrick le Chinois, ce Français qui ne parle ni le mandarin ni le cantonais. Partira demain pour conquérir les scènes de l'Empire du Milieu. Une drôle d'aventure qu'il vient de raconter tout de suite dans RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto. Thomas Soto, RTL Soir.
Il est français, il est humoriste et il s'apprête à partir en Chine pour y donner plusieurs spectacles, notamment à Shanghai et à Pékin, alors qu'il ne parle pas un mot de chinois. Patrick Vesselier dit Patrick le Chinois est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue, je vous appelle Patrick le Chinois.
Ben avec plaisir.
Ah, c'est marqué sur le t-shirt.
Merci de me recevoir, vous avez vu, oui.
Ouais. Tout est curieux dans votre histoire. Hein. Tout est curieux. Déjà, aller faire du one-man show dans un pays étranger quand on n'en parle pas un mot, c'est audacieux, c'est pas la garantie d'un lien direct et facile avec le public. Comment vous est venue cette idée?
Cette idée, ça m'est venue lors d'un festival de café-théâtre. Un ami a fait cette remarque et m'a dit la France est un petit pays, il y a 20 000 humoristes, en Chine on est 1,5 milliard, il n'y en a pas un. J'ai dit je vais faire ça, humoriste chinois. Donc c'est une blague potache au départ.
Mais il n'y a vraiment pas d'humoristes en Chine?
Alors il commence à y avoir des petites scènes de stand-upers, mais c'est vraiment confidentiel.
Ouais. Et comment vous allez faire avec la langue? Parce que vous ne parlez pas chinois, on est d'accord?
Non, je ne parle pas chinois, j'écris en français, je fais traduire le spectacle, enregistrer et je l'apprends en phonétique, phrase par phrase.
Vas-y, faites-moi le début, là vous l'avez.
Raon, ah, je vous fais la fin, ou comme vous voulez.
Comme vous voulez. Elle est bonne celle-là. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire je vais m'efforcer de devenir un super chinois.
Ah ben disons, c'est... Et ça ressemble à quoi l'humour chinois?
Alors c'est très différent d'une autre. Il y a surtout des choses qu'on n'a pas le droit de faire, parce que je fais valider mon spectacle par le gouvernement chinois.
Sérieusement?
Oui, pour pouvoir jouer dans toutes les salles nationales. Alors d'autant dirait que c'est de la censure. Moi je dirais plutôt qu'ils ont besoin que l'humour soit adapté à leurs critères.
Ça veut dire que votre texte, vous l'envoyez aux autorités chinoises qui vous disent ok ou pas ok?
Alors sur le premier spectacle, ils m'ont dit ok, mais on vous conseille d'enlever cette phrase sur le premier spectacle. Sur le deuxième, il n'y en a aucune.
C'est quel genre de phrase que vous demandez d'enlever?
C'est une vraie anecdote en plus que j'avais racontée avec un ami chinois à Paris. Je lui avais dit, tu te rends compte, la France c'est un super pays, si on veut on peut critiquer le président François Hollande dans les journaux. Et ouais. Il s'était vexé en disant mais en Chine c'est pareil, on peut critiquer le président François Hollande dans les journaux.
Oui. Voilà.
J'avais trouvé ça super.
Bon, on a le droit de rire de... Qu'est-ce qui les fait marrer les Chinois en fait?
La situation plus. Mr Bean dans Harlequinson est une super star. La situation, tout ce qui est chansonnier, c'est-à-dire tout ce qui parle politique, la vulgarité, tout ça c'est à bannir. Parler ce qu'on a au quatrième mur, un personnage imaginaire, ça marche pas non plus. Et il y a surtout pas la notion de second degré, qui est un truc important qui n'existe pas en Chine.
Ce qui doit être dur quand même pour un humoriste français, parce que nous le second degré on surfe dessus.
On l'utilise en permanence. Oui, mais on s'en rend compte. Dire à quelqu'un qui sort de chez le coiffeur, t'es bien coiffé, par exemple, en Chine, ça on comprendrait même pas ce que
vous
ça veut
pas
dire.
Pas mal vous aussi. Hein.
Merci beaucoup.
Pour ceux qui nous regardent en vidéo, il y a rien sur le caillou. Hein. Mais les autorités valident le texte, mais le stand-up. C'est aussi beaucoup d'improvisation.
Alors, je parle pas la langue, moi, donc il n'y a pas de problème. J'apprends mes 348 phrases et pour improviser, je...
Donc, il n'y a pas de bis, hein, il ne se passera rien de plus.
Non, il n'y a pas d'impro, y a rien du tout.
Votre spectacle, il s'appelle En attendant Beyoncé. Donc là, on résume. Hein. On a un garçon fort sympathique qui arrive, qui ne parle pas un mot de chinois, qui va partir en Chine faire un spectacle pour parler de Beyoncé.
Absolument. Absolument.
Vous pouvez développer un peu, nous aider parce
que... absolument. Mais vous savez, des fois j'ai des idées saugrenues. En tout état de cause. Non, c'est un super spectacle où je fais un présentateur qui avoue au public qu'il ne parle pas chinois, mais qui, je dis au public que j'ai appris 4 phrases pour présenter ce showcase exceptionnel, puisqu'il y a Beyoncé qui doit venir chanter. Et évidemment, le régisseur m'appelle en me disant qu'il y a un problème, qu'elle n'est pas là, et je dois faire patienter le public.
Ouais. Vous l'avez travaillé et écrit comment, ce spectacle?
Je l'ai écrit en français.
Ça, c'est un spectacle que vous avez écrit pour les Chinois ou c'est un spectacle que vous avez joué en France et que vous...
Non, c'est pour les Chinois. Je l'ai écrit, en français. Je fais regarder ce spectacle par des membres de l'AJCF, l'Association des Jeunes Chinois de France, qui s'occupe beaucoup de la lutte contre le racisme, d'ailleurs, asiatique. À partir du moment où ça me semble compréhensible pour les Chinois, je le fais traduire par un traducteur qui s'appelle Cédric Beau, qui habite à Guiyang, et sa femme chinoise. Il l'enregistre.
Ce sera votre premier spectacle. Hein,
absolument. Il m'enregistre phrase par phrase, je reçois une phrase par jour, une phrase qu'il dit doucement et une phrase à vitesse réelle. J'apprends la phrase, le soir on regarde si je l'ai retenue, et puis si je l'ai retenue on passe à la suivante. vente. Voilà.
Bon, la prononciation du chinois, c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué. Vous n'avez pas peur que dans la salle, ils captent rien du tout? Pardon, sans vous faire offense.
Alors non, parce que j'ai quand même le spectacle est surtitré en caractère chinois, donc le public peut lire s'il a un doute, ce qui paraît saugrenu pour nous, mais c'est quelque chose de courant en Chine, puisque la télévision est sous-titrée, la CCTV, il y a tellement d'accents différents en Chine. Que...
Elles sont de quelle taille, les salles, là-bas? Parce que,
Elles sont grandes, les salles de rodage, là, je vais faire des petites salles de 500 places, mais ça va jusqu'à 6000, normalement.
Vous allez jouer jusqu'à des salles de 6000
places? Oui, j'ai déjà fait ça en 2015. Oui, mais c'est à la taille de la Chine, hein, c'est très relatif, vous voyez.
Oui, c'est relatif, il faut quand même les faire venir. Comment ces personnes qui... Moi, en vous entendant là, si vous me disiez, je suis en spectacle dans une salle française, j'irai, parce que vous me faites marrer. Mais les Chinois, là, qui ne vous connaissent pas, ils voient arriver un mec comme ça, ils veulent lui. Et pourquoi ils vont acheter un billet pour venir voir? Comment vous allez les recruter?
Alors, ils viennent... les réseaux sociaux chinois sont très importants. Donc, je suis sur Weibo, j'ai énormément de fans, de followers. Ouais. Et si vous voulez, le contenu du spectacle est moins important que le contenant. Un gars avec ma tête qui essaye de parler chinois, qui essaye de... Ouais. Les Chinois sont contents de ça, déjà.
Ils viennent se foutre de vous un petit peu, peut-être?
Ils viennent, non, c'est un public... peut-être, en même temps, maintenant que vous le dites. Mais non, c'est un public extrêmement bienveillant qui apprécie que les Occidentaux fassent un pas. Vous savez, il y a beaucoup d'expatriés français à Shanghai. Beaucoup sont là depuis 10 ans et parlent uniquement anglais. Donc c'est vrai que quand un Français, un Américain fait l'effort de parler, ils sont contents.
Ouais. Le premier spectacle, c'est le 17 juin. Oui. Et vous partez dès demain parce que j'ai eu du mal à le croire. Vous partez en voiture.
Oui, ouais. En smart, dans une très belle smart, Fortwo. C'est-à-dire pour deux.
Vous moquez de moi ou c'est vrai, vous partez en smart en Chine?
C'est une très belle smart de 74 chevaux, un très très joli modèle.
C'est vrai.
Boîte automatique, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors aujourd'hui,
j'ai les avions, vous allez à l'aéroport, tac, et c'est fait en quelques heures.
Ouais, mais non. Non, non, mais alors on m'a dit que ça bouchonnait pas mal en Hongrie. Je vais voir, donc je mettrai le clignotant à gauche, je vais me débrouiller. Non, en smart, oui, une smart qui est très jolie, mais c'est vrai qu'elle n'est pas très grande.
Ça fait quoi? C'est combien de kilomètres là-bas? C'est 20 000, 25
000? Ouais, alors là, ça a augmenté un petit peu parce qu'au fur et à mesure des restrictions sanitaires, je dois faire des détours. Donc là, ouais, je suis à 22 000 à peu près.
Ouais. Ouais. Ça inquiète pas trop votre mère, non? Parce que vous parliez de votre mère en dans ce studio. Mais
je lui ai pas dit, vous pensez bien.
Excusez-moi.
Si, ça inquiète tout le monde, ma mère, ma femme, mes enfants. Tout le monde me dit adieu en pleurant avec un mouchoir. Les gens ont l'impression qu'ils vont plus me revoir. D'ailleurs, je sais pas, on pourrait se faire la bise après quelque chose, parce que peut-être que c'est la dernière fois pour nous.
Bon, ça me ferait de la peine, parce que moi j'aimerais bien vous revoir quand même. Le contexte sanitaire, j'imagine que ça va compliquer un peu tout ça quand même.
C'est pas de la complication, on est bien au-delà. Pour l'obtention des visas, que ce soit pour les contraintes de vaccins, de tests PCR, oui, c'est très compliqué.
Parce que concrètement, là, vous partez demain, vous allez quoi? Vous allez traverser l'Autriche, la Hongrie, la Slovaquie, la Russie, je ne sais pas où vous allez passer encore. Qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez 2-3 jours à chaque fois dans chaque...
Non, j'ai des rendez-vous dans chaque pays avec soit une ambassade française, soit une ambassade chinoise. Donc j'ai les doubles communautés qui m'attendent. J'ai rendez-vous dans certaines alliances françaises aussi. Via les réseaux sociaux, j'ai par exemple une association de Chinois à Graz en Autriche qui m'attendent, qui font des banderoles et tout, c'est super.
C'est
mignon.
C'est vrai?
Ouais, c'est super, super.
Qu'est-ce qu'on tape pour suivre les réseaux sociaux? C'est Patrick
le Chinois sur Instagram surtout, ByMag sur Weibo, mais ça vous en foutez, ou sur mon site patricklechinois.com.
J'ai pas confiance quand vous parlez en chinois, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas confiance.
Non, vous inquiétez pas. Non, ByMag, c'est là, c'est marqué sur mon t-shirt.
C'est écrit là, sur le t-shirt.
ByMag.
Pour ceux qui regardent sur le. Il crade, mais en fait, il fait de la phonétique. Ouais. C'est quoi le but de tout ça, le rêve caché derrière tout ça?
Le rêve caché, ultime pour moi, c'est de faire du cinéma un jour, mais surtout la chose.
Mais
qui
là-bas
est importante,
ou ici en vrai?
Non, ici en France. Ouais. Mais la chose qui est importante, c'est que il n'y a pas de plan de carrière. Cette aventure-là, je l'ai pas décidé. C'est quelque chose que j'ai dit à 2h du matin avec des vapeurs de digestif, voyez-vous. Ouais. Je pensais pas pouvoir y arriver. Et puis des gens se sont greffés au fur et à mesure, m'ont donné un coup de main, et c'est ce qui a permis ça. Donc c'est plutôt mon rêve, c'est déjà d'arriver au bout. C'est assez marrant. Et puis je fais au coup par coup. Je suis un impulsif.
Vous savez qu'on dit tous des conneries à 2h du matin, mais en général, le lendemain, on passe à autre chose, quoi, c'est ça?
Non, moi, je l'ai fait.
D'accord. On va vous souhaiter un bon voyage. Merci. Est-ce que vous viendrez nous raconter le retour?
Avec plaisir, si vous m'invitez, je suis tellement content d'être là. Vraiment, bien sûr.
Nous, on espère que vous reviendrez, puis on vous embrasse votre mère, parce que.
Oui, pas de problème.
Je suis inquiet quand même. Merci. C'est quoi, c'est Beyoncé qui revient?
Eh ouais.
Merci, Patrick le Chinois, d'être venu.
Merci à vous. Merci.
Patrick le Chinois, hein, sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas de problème dans cette époque tellement politiquement correcte? Patrick le Chinois, on vous dit pas raciste, machin, tout ça, il y a pas de.
On me dit tout. On me dit, nous, on peut pas le faire plus de 10 km pour aller voir nos enfants. Vous faites la moitié du monde comme on fait. On dit, évidemment, on tourne. Il y a les réseaux sociaux. Je lis pas, moi, vraiment ça. Je sais que mon action est extrêmement bienveillante, que je vais respecter tous les pays que je traverse, que je vais respecter les normes sanitaires, etc., etc. Voilà. Je suis juste parti jouer mes spectacles parce que je pouvais pas le faire ici.
Et vous revenez aussi en voiture quand vous...
Je reviens en avion, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La Smart, je déchire mon permis. Ma femme conduira les 6 prochains mois. La Smart est récupérée par. Smart est à moitié chinois, donc elle m'a été donnée par Komo, une concession à Trocadéro.
Vas-y, fais de la pub, tu veux.
Pardon. Ah, j'ai pas le droit ? C'est pas de la pub.
C'est payant, normalement.
Mais ils vont me payer, je vous et puis là-bas, là il écoute, c'était pour savoir s'il signait mon chèque. Et puis là-bas, je la donne dans une concession. Il faut savoir que le Smart appartient à moitié par un groupe chinois. Et donc, une très belle concession récupère la Smart. C'est une des dernières Smart thermiques que j'ai. Bon.
Et ben vous, c'est bien que ça vous pollue. En plus, vous aggravez votre cas. Vous n'hésitez pas, vous filmez tout ça, vous faites de la vidéo et vous revenez nous voir fin juin.
Merci, avec plaisir.
Merci Patrick Le Chinois, merci d'être venu nous voir. Ça grogne chez certains militaires. Alors ce soir, Julien Molko a décidé de mettre la culture de l'actu au pas. En attendant,
Thomas Soto, RTL Soir.
Thomas Soto, RTL Soir.
18h50, Julia Molko, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
En lectrice attentive de Valeurs Actuelles, la tribune d'une vingtaine de généraux militaires ne vous a pas échappé. Elle continue à faire parler beaucoup aujourd'hui. Alors ce soir, eh bien, les généraux, s'il vous plaît, sont dans la culture de l'actu.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Vous aurez reconnu l'appel du 18 juin 1940 lancé par le général de Gaulle depuis les studios de la BBC à Londres. Et si tout le monde connaît au moins en partie l'action politique du général de Gaulle, certains auront peut-être oublié que le grand homme était aussi un écrivain. Ses premiers écrits, connus, datent de 1905, il avait alors 15 ans. Et dans « Campagne d'Allemagne », un texte d'une quinzaine de pages, le jeune Charles, pas encore général, se projette en 1930 et se rêve déjà en décisionnaire de manœuvres militaires qui conduiraient la France à la victoire. Pas mal. Suivront des livres sur l'histoire de la guerre, est-ce que doit être un bon militaire, ainsi bien sûr que ces mémoires de guerre qui font entrer le général de Gaulle dans la fameuse bibliothèque de la Pléiade. Alors que Gilbert Bécaud se rassure, personne n'a oublié l'homme de Colombey et nombreux sont ceux qui s'y réfèrent encore.
La voix qui racontait une France à ton goût, moi.
Oui.
Quand elle va se taire, je te parie sans sous. Le nom, drôle de nom.
Alors on connaît aussi bien sûr des généraux dans la fiction. On peut citer le général Alcazar chez Tintin, dictateur et dirigeant du sang de Théodoros, grand ennemi du général Tapioca, qui ne cesse de vouloir lui arracher le pouvoir. Et puis bien sûr il y a le général Spons.
Mais qu'est-ce qui se passe? On torture ici?
Ta gueule, main sur la tête, le pédé, balance ton nom.
Spons, général Spons.
Excusez-moi, général, vous avez pris pour un autre.
Mais qui êtes-vous?
Adolfo Ramirez, Gestapo.
Mais comment oses-tu venir ici avec ta horde de rats immondes?
Écoutez, mon général, je suis de la Gestapo, je mène une enquête, je ne fais que mon devoir, mais je me demande si vous faites bien le vôtre.
Il me donne un coup, bravo.
Roland Giraud est donc
c'est
le général.
C'est marrant, on peut l'avoir vu 250 fois, on rigole toujours.
C'est exceptionnel,
papy voilà, fait de la
résistance. Gérard Jugnot, évidemment, dans le rôle d'Adolfo Ramirez, ancien concierge reconverti dans la Gestapo. Et puis on retrouve bien sûr Michel Galabru, Martin Lamotte, Dominique Lavanant ou encore Jacques Villeray dans ce film de Jean-Marie Poiré dont on ne se lasse pas.
Ça, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a des généraux dans la musique?
Eh bien, écoutez, Francis Blanche en a trouvé un à vendre.
De bon matin, me suis levé, c'était dimanche. À la carriole, j'ai attelé la jument blanche pour m'en aller au marché dans le chef-lieu du comté. Paraît qu'il y avait des généraux à vendre.
Et puis le lien entre généraux et musique, eh bien c'est surtout au Brésil qu'on le trouve. Le 31 mars 64, l'armée brésilienne s'installe à la tête du pays pour 21 ans. 5 généraux présidents vont se succéder de 64 à 85. Et c'est de la contestation de cette dictature militaire, alors au pouvoir, mais aussi de la fascination pour le rock américain et anglo-saxon, que va naître le mouvement Tropicalia en 68, emmené par Gilberto Gil, Chico Buarque et Caetano Veloso. C'est une synthèse entre musique traditionnelle et instruments électriques jusque-là interdits au Brésil qui va donner un courant un peu trop provocant pour le pouvoir militaire en place qui ne tardera pas à interdire le mouvement et à envoyer leurs meneurs en prison. C'est ainsi que Gilberto Gil et Caetano Veloso rejoindront la Mecque de la pop, c'est-à-dire l'Angleterre. Adieu les généraux, à eux les petites anglaises.
Pega voga cabeludo, que eu não sou cascudo, tenho muito estudo pra fazer minha embolada, cana batucada, não me falta nada, eu tenho.
C'est marrant comme ça, on a envie d'aller tout de suite jusqu'au bout de la nuit, quoi, avec ça. C'est une capirinha, une deuxième capirinha, une troisième capirinha.
On va s'arrêter là.
Avec modération, s'il vous plaît. Ah oui, oui. Il n'a pas écrit sur les généraux.
Ah non, c'est pas vrai.
Mais il évoque l'armée, le passé militaire, dans une chanson magnifique.
Mais non.
Né en 17 à Leidenstadt. Non, ce que vous m'avez entendu.
Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt. Sur les ruines d'un champ de bataille. Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens. Si j'avais été...
Jean-Jacques Goldman en concert tous les soirs dans RTL Soir.
Nourrie de rêves et de revanche. Aurais-je été de ces improbables consciences. L'arme au milieu d'un torrent.
Et vraiment, parce que ça vous fait plaisir, vous avez cité Rouge qu'on a déjà écouté, c'est avec les chœurs de l'armée rouge.
Il y aura des jardins.
C'est les disques à la demande, c'est vraiment pour vous faire plaisir, Julien.
T'es Guy, j'avais rendu à l'heure. Hein, t'es oui, témoin. Mais je voulais que tu puisses faire une météo. Mais il n'y a pas de problème, écoutez, on la fera après. Mais que deux Goldman ce soir, pas trois.
Ah bah, me cherche pas.
Julia. J'aimerais savoir jusqu'où il peut aller. Très loin, je crois. Qu'est-ce qu'on promet d'autre?
Chut, mais tais-toi. Il chante. On aura du temps pour rire et s'aimer, mais plus beaucoup pour la météo.
Plus aucun enfant n'ira travailler.
À part Philippe Cavrivière.
Il y aura des écoles pour tout le monde, que des premières classes, plus de secondes. C'est la fin de l'histoire. Le rouge.
Là, on pourrait s'arrêter, mais ça monte. Regardez.
Non, mais je vous en prie, faites-vous plaisir.
Tac, tac, tac.
On ira voir la mer.
Tac, tac.
Et nos frères de silence. Et la paix sur la terre. Mais si la guerre éclate.
Allez, on passe à la météo, Peggy.
T'es sûr?
Ouais, on kiki. Mais on garde quand même en fond comme ça.
Avec la superbe.